On va retrouver l'ensemble de nos envoyés spéciaux pour aborder tout de suite le dossier Liana. Avant de reparler des conséquences politiques et judiciaires liées au drame, d'abord cette information BFM TV, le frère de Jérôme Barella se retrouve en garde à vue à Auch pour suspicion de viol sur son ex-compagne. Que dit le dossier? De quoi s'agit-il précisément? Victor Pérez-Boucheron, c'est vous qui êtes au commissariat d'Auch dans le Gers pour BFM TV.
Oh oui, effectivement, c'est une information du service police-justice de BFM TV que nous sommes en mesure de vous confirmer. Ce matin, à 10h25, le frère de Jérôme Barella, âgé d'une quarantaine d'années, né en 1982, a été placé donc en garde à vue au commissariat de police d'Auch pour des chefs de viol sur mineurs de plus de 15 ans, viol par conjoint, séquestration et menace de mort réitérée par conjoint, apprend-on donc dans un communiqué de presse du parquet d'Auch. Les faits auraient été commis entre 2007 et 2017. Autre information, le suspect n'avait plus aucun lien avec Jérôme Barella. Cette procédure est distincte de l'enquête en cours pour la mort de la petite Liana. Le frère placé en garde à vue, tout comme les autres personnes mises en cause, bénéficient pour l'instant de la présomption d'innocence.
Victor Pérez-Boucheron à Auch avec Quentin Roland pour BFM TV.
Mathias Cesson, bonsoir. Vous confirmez que c'est une affaire en fait, qui n'est pas nouvelle? Ça remonte à 2024?
Alors oui, on parle de faits ayant manifestement eu lieu sur une période de 10 ans, entre 2007 et 2017, des faits anciens commis présumément par cet homme sur une ancienne compagne, qui visiblement était mineure sur la première partie des faits, puis ensuite majeure, ce qui explique la distinction faite par le parquet, viol sur mineur, viol sur conjoint, et manifestement tout cela a été judiciarisé en 2024 à la faveur d'un dépôt de plainte de la part de cette femme. Et donc il y a ce timing évidemment concomitant à l'affaire Liana qui nous interroge, et ce placement
en garde à vue. On s'est réveillé dans le Gers, ça, d'un coup.
Difficile de faire des hypothèses, mais vu la sensibilité évidemment du dossier Liana, peut-être y a-t-il un lien entre les deux, on peut le supposer. En tout cas, voilà, c'est une garde à vue qui peut durer 24 ou 48 heures, ouais. Si d'aventure elle est prolongée.
On vous a entendu sourire, désolé, mais je trahis ce qui s'est passé sur le plateau.
L'ancien policier.
Vous êtes Jean-Pierre Colombias, on vous connaît parce que vous avez suivi des affaires avec nous en direct sur le plateau de BFM TV, ancien de la police judiciaire. Vous avez un petit haussement d'épaule quand Olivier a dit on se réveille dans le Gers, quoi.
Oui, mais en même temps, je crois qu'à un moment donné, faut pas se tromper non plus de dossier, faut pas se tromper de polémique. Cette affaire-là sera traitée de façon disjointe.
Alors reconnaissez que c'est quand même curieux que tout d'un coup, on se rappelle de cette affaire
peut-être
de 2024.
Il faudrait pas que ça nous détourne l'attention.
On regarde ce qui arrive au frère de cet
homme. J'entends bien, il faudrait pas que ça détourne l'attention du dossier qui nous réunit malheureusement en ce moment et qui nécessite bien d'autres analyses. C'est un dossier comme il y en a tant d'autres. J'espère qu'il ira jusqu'à son terme, y compris s'il n'est pas coupable. Je le précise quand même.
Bien sûr.
Et on parle, il faut rester concentré.
On peut se dire autre chose, que l'affaire Liana avec Jérôme Barella, d'un coup, ça a peut-être résonné à la tête du parquet des enquêteurs en disant mais attendez, on n'a pas un autre dossier Barella en cours, on n'a pas autre chose.
Vous assurez que des dossiers dans ce genre-là, il y en a partout en France. Hein.
Oui, enfin là, c'est pas n'importe quoi. C'est
j'entends
frère,
bien, j'entends bien. Mais
la comitance s'interroge tout de même.
Ah oui, quand même.
On verra. Non, mais je vous dis, on verra. Moi,
Vous voyez la coïncidence.
Certes, mais l'enquête dira s'il est coupable ou pas.
C'est pas ce qu'on dit.
J'entends, mais il y a ça entre en résonance avec ce qui est en train de se passer par ailleurs.
C'est que tout d'un coup, une affaire concernant la famille Barella ressurgit alors qu'elle est traitée depuis 2024.
J'entends bien, mais que je sois clair aussi, mon haussement d'épaule était cynique, hein, il n'était pas du tout humoristique.
L'autre info qu'on veut vous donner ce soir, c'est qu'il y a 150 rassemblements prévus ce soir devant les palais de justice. Il y avait un rassemblement prévu place Vendôme devant le ministère de la Justice, et on vient d'apprendre qu'il a été, il n'est pas autorisé par la préfecture de police. Anne-Cécile Melfer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de la Fondation des Femmes. Pourquoi vous n'avez pas obtenu cette autorisation?
Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que place Vendôme, il y a le ministère de la Justice, et nous, on avait envie de se retrouver. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde avait envie de se retrouver là pour rendre hommage à Liana, pour exprimer collectivement notre peine. Je pense qu'on en a besoin. Et puis, notre colère aussi. Et le ministre de la Justice a des comptes à rendre. Et peut-être que c'est une manière de se déresponsabiliser, je sais pas.
Mais cette interdiction est motivée par quoi, en fait?
Elle est pas motivée. Là, vous pouvez le trouver sur le site de la préfecture. Donc, on tombe des nues parce qu'on avait préparé, vous savez, c'est un rassemblement avec des collectifs enfantistes et féministes. Ça veut dire, globalement, ça va être des mamans avec des poussettes qui vont être là, qui vont venir déposer des fleurs. On avait prévu une scène, on allait faire une chanson. Il y a Suzanne, la chanteuse, qui devait venir chanter. et que ça nous soit interdit dans le contexte.
La décision
je trouve
est tombée
ça hallucinant. Là, c'est, ah oui. c'est, ça a été publié.
Vous avez
là,
des détails,
oui, une précision. La préfecture de police de Paris demande à ce que ce rassemblement soit déplacé place Lépine, vous savez, sur l'île de la Cité, là où se trouve l'ancien palais de justice de Paris.
Aujourd'hui, c'est la cour
d'appel. Donc, peut-on parler précisément d'interdiction? C'est un déplacement, après, au vu peut-être des lieux, de ce qu'est la place Vendôme.
Le palais de justice, c'est pas la même chose.
C'est l'ancien palais de justice, donc c'est même plus vraiment palais de justice. Par ailleurs, la place est toute petite. Donc, je veux dire, on ne peut pas ne pas y voir quand même un petit signal qui est envoyé. Par ailleurs, nous dire ça là, à 16h30, ça veut dire qu'en
signal,
fait...
Quel signal, pardon?
Le signal que ils ont peut-être un peu peur des mamans avec leurs poussettes qui sont en colère, je sais pas. Mais en tout cas, l'image que ça va renvoyer quand même, mais y compris à l'étranger, ça va être désastreux. Parce que nous-mêmes, si on bouge le rassemblement, moi j'ai déjà entendu parler de personnes qui disent « nous, on veut aller place Vendôme ». Et il y a des gens, moi je ne peux pas les empêcher d'aller place Vendôme.
Sous les fenêtres du bureau de Gérald Darmanin pour lui demander sa démission?
Alors, sa démission, j'en sais rien. Moi, chacun demande ce qu'il a envie de demander à Gérald Darmanin. Mais en tout cas, ne serait-ce que demander des comptes. Enfin, c'est notre gouvernement est responsable de ce qui se passe dans ce pays. Et
vous
en particulier
quoi,
sur la protection des femmes et des enfants.
Nous,
on demande une loi intégrale. On demande une loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et on a justement envie de parler de ça. On a envie de parler de propositions, de ce qui est sur la table, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut voter. Et cette espèce de bagarre, là, sur le lieu du rassemblement est juste pas à la hauteur de l'émotion qui secoue la France. La France, elle est en deuil. À Paris, je pense que nous toutes et tous ici, on est en deuil par rapport à la petite Liana. Ça nous bouleverse et on a besoin, on a envie de pouvoir manifester ça. Nous met dans un petit coin devant un palais de justice désaffecté, franchement, c'est pas du tout. C'est pas à la hauteur.
La comédienne Andréa Bescon veut tout de même.
Ah, mais c'est ce que j'ai dit. Mais
Vendôme,
en fait, ce qu'ils vont avoir là maintenant, c'est qu'ils vont avoir des mamans, des enfants, des gens qui vont venir devant les CRS et qui vont dire qu'ils veulent y aller. Donc en fait, on va avoir des images absolument désastreuses.
De face à face,
absolument désastreux, sur un sujet qui est quand même, c'est un rassemblement qui est absolument pacifique. Et là, on va avoir une espèce de confrontation.
Il ne faudrait pas qu'il y ait des images de CRS qui empêchent les mamans et les poussettes de passer. Ça serait.
C'est ça qui va se passer. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'il se passe d'autre?
C'est le risque.
On n'est pas des hooligans.
C'est le risque de trouble à l'ordre public qui est invoqué ce soir par la préfecture. Attendez, pardonnez-moi, je termine. Il y a dans l'arrêté qui a été publié sur le site de la préfecture de police, en raison ce rassemblement et peut générer une importante influence avec la présence de groupes militants aux opinions antagonistes susceptibles de trouver l'ordre public. Tout cela intervient dans un contexte particulièrement sensible, il y a l'émoi national suscité par la mort de Liana. Voilà, ce sont les arguments évoqués par la préfecture de police.
Effectivement, il y a de l'émoi. Oui, il y a de l'émoi en fait, mais
la colère aussi.
Il y a de la colère, bien sûr.
Vous n'allez pas tout casser.
Mais voilà.
C'est ça qu'on craint. Finalement.
En fait, dans les manifestations féministes et dans les manifestations enfantistes, on a prévu un coin pour les enfants, etc. C'est pas du tout l'esprit de ce rassemblement qui est par ailleurs à nouveau un rassemblement en hommage à une petite fille qui a été tuée. Donc c'est pas du tout le sujet. Et au pire, on va demander une loi. Je veux dire, on est quand même sur un rassemblement qui est... Et oui, on va demander des comptes au ministre de la Justice, effectivement, et pas que. Moi, je demande des comptes aussi au Premier ministre et au Président de la République, qui est quand même en poste depuis quasiment 10 ans et qui n'a pas fait ce qu'il faut depuis 10 ans. Mais ça, voilà, je veux dire, à partir de là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de le dire? On n'a pas le droit de manifester dans notre pays?
Mais alors, justement, nous sommes avec une avocate, Carole Machuilla, avocate de l'association La Voix de l'Enfant. Un mot sur l'aspect juridique de cette affaire. Donc, interdiction, dernier moment, par la préfecture. Vous comprenez les motifs, ils
sont défendables. Je veux dire, c'est vraiment la notion la plus fourre-tout qui existe dans notre droit. C'est le risque de trouble à l'ordre public. Ça veut tout et ça veut rien dire. Alors, quand on n'a rien... Eh ben, c'est un trouble potentiel à l'ordre public et c'est ce qui est appliqué. Donc c'est pas une interdiction, c'est une proposition de déplacement de toutes les manières qui va heurter tout le monde et c'est vraiment une difficulté. Mais là-dessus, c'est se soumettre, se démettre, y aller de force. C'est-à-dire quel est le message? C'est la vraie question, c'est quel est le message qu'on veut faire passer dans ce type de manifestation? Il y a l'expression d'une vraie colère, de beaucoup de peine.
Que vous partagez?
Quelle question?
Parce que vous êtes avocate.
Moi, je suis
aussi.
Je suis avocate. Je suis accessoirement mère.
J'imagine.
Et très accessoirement grand-mère. Et d'ailleurs, je vais vous dire hier j'ai entendu le discours de la Tati, je crois, qui est intervenue en lieu et place des parents qui étaient trop effondrés. Elle a dit à un moment donné, pardon pour ce que tu as vécu. Moi, j'aurais voulu que des hommes politiques qui aujourd'hui nourrissent de leurs vœux la mise en place d'une enquête, revoir 70 000 dossiers en l'espace d'un mois, ce qui est quand même une grande rigolade. Oui. Hein, on pourrait en parler, mais c'est quand même une grande rigolade.
70 000 plaintes à réexaminer concernant des mineurs.
Voilà, donc 70 000.
C'est du grand n'importe quoi.
70 000 plaintes. Alors, les auditions, les confrontations, on revoit le dossier, les expertises médico-légales, les expertises médico-psychologiques, et puis...
C'est infaisable.
Une baguette, voilà, c'est un coup de baguette magique. Non, c'est infaisable, c'est dangereux, ça ne correspond pas à l'approche qu'on doit avoir d'un dossier judiciaire. Est-ce qu'il y a eu des classements? Est-ce qu'il n'y a pas eu de classement?
Vous auriez aimé quoi? Parce que vous aviez commencé en disant « j'aurais aimé » après le discours de l'attente.
J'aurais aimé.
Les responsables politiques.
Vous voyez, le mot « pardon » est un mot qui, aujourd'hui, a du sens.
Gérald Darmanin a présenté ses excuses.
Pardon de ne pas avoir su te protéger, Liana. Pardon de ne pas avoir su, et parce qu'on pouvait le faire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce sentiment de colère qui habite tout le monde? Parce qu'on n'est plus dans le cadre d'une fatalité.
Non, tout le monde a compris qu'on a pu.
Tout le monde a compris. Alors voilà, après, pudiquement, on peut appeler ça un dérèglement, un dysfonctionnement. Mais c'est terrible, c'est épouvantable. Et quand nous, avocats, on dit on n'en peut plus de quémander des informations au niveau du parquet, de relancer sans arrêt, mais sans arrêt, de se déplacer en disant « s'il vous plaît, j'aimerais... » les clients... Enfin, on a des enfants, des fois, qui arrivent au cabinet, ce sont des mineurs. On arrive un jour, quand on y arrive devant la cour d'assises, ce sont des adultes. Quel sens?
Mais on sait pourquoi.
Pourquoi?
Mais on sait pourquoi.
Parce qu'on n'a pas les moyens.
Mais voilà. Alors moi, quand j'entends, je suis
uniquement une question de moyens.
Il n'y a pas assez de...
Non, je ne suis pas membre de votre association, mais je suis parent aussi. Non, mais il n'y a aucun problème là-dessus. Et j'ai manifesté il y a bien longtemps, parce que justement, déjà, il y a très longtemps, des moyens manquaient. Et ce que j'entends, moi, depuis plusieurs jours, en tant qu'ancien flic, me hérisse. Dire qu'on demande des audits de cet ordre-là, qui plus est, qui doivent se terminer théoriquement au 14 juillet, ça tombe bien, c'est le début des vacances judiciaires. Mais donc il y aura beaucoup moins de personnel dans les tribunaux, sachant qu'il y en a déjà pas beaucoup. C'est tout simplement de l'affichage. C'est pour vous, messieurs, que c'est annoncé, ça. C'est pour les médias.
C'est de la com.
Mais bien sûr, c'est pour les professionnels du judiciaire. Donc à un moment donné, il va falloir que chacun se regarde dans la glace. Et ça vaut pour les partis de droite comme pour les partis de gauche. Je ne pense pas que vous me déjugiez de ce point de vue-là. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous rappelle que c'était bientôt... On fête un anniversaire, là, aujourd'hui, quasiment, à quelques jours près. Mois de mai 2021, il se passait quoi? Manifestation du syndicat Alliance face à l'Assemblée nationale pour dénoncer les injustices du ministère, entre guillemets, du ministère de la Justice. Ça, c'était le grand slogan. Qui est venu se joindre à cette...
Gérald Darmanin.
Merci. Et à l'époque, qui était que ministre de l'Intérieur, si vous me permettez, qui était rejoint d'ailleurs par un autre ministre, rappelez-vous, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Donc, toutes ces personnalités-là savent ce que nous avons subi, nous, en tant qu'enquêteurs. Là, je mets mon costume d'enquêteur durant des décennies. Et donc aujourd'hui, les conséquences...
Ça veut dire quoi que les plaintes concernant les viols ou les attouchements ou les agressions sur enfants, ça n'a jamais été prioritaire dans le traitement?
Non, ça, c'est pas vrai de dire ça. Non,
je vous pose la question. C'est une question.
Non, mais faut pas dire ça. Ce qu'il faut dire, c'est que les services enquêteurs, gendarmerie comme police, sont noyés par la masse des dossiers qui sont à traiter et que les moyens ne sont pas là, que ça plaise ou pas, ni à Emmanuel Macron, ni à Gérald Darmanin.
Ils ont augmenté.
Si le mot est un gros. Mais c'est faux!
Le budget du ministère de la Justice
est allé à la pénitentiaire et à des revalorisations d'indices qui avaient énormément de retard. Ne confondons pas tout. Les retards de budgétisation et ce qu'il aurait fallu abonder pour avoir un budget de la justice digne de l'Europe, alors qu'on est, je crois, les avant-derniers en termes de volume et de magistrats. J'en parle même pas. À un moment donné, on se dit les choses ou on se les dit pas. Si on est juste là pour, et moi je ferai pas, en tout cas vous avez bien compris que c'est pas mon rôle, pour lire des fiches dictées par le ministère de l'Intérieur ou par le ministère de la Place Vendôme, comptez pas sur moi. La réalité, elle est là. Il n'y a pas assez d'agents judiciaires. Les dossiers dont madame vous parle, qui ne sont pas enregistrés, ne sont pas enregistrés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'agents judiciaires. Pourquoi il n'y a pas assez d'agents? Parce que les professions ne sont pas valorisées. Vous avez un déficit de vocation, mais à tous les niveaux. Et au niveau des enquêteurs, c'est pareil. Il y a une fuite en avant. Au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, des démissions en masse, des transferts de compétences vers d'autres systèmes, notamment la police municipale. Les gens passent des meilleurs. Excusez-moi, je suis un petit peu passionné, mais c'est normal parce que moi, quand on touche à des gamins, on n'aurait pas pu parler de la petite Lola et d'autres gamins, du gamin qui a été tué à Nantes aussi lors des narcotrafics, dont on nous dit que c'est la mère des batailles. Et en fait, des mères des batailles, il y en a partout. Si, on a partout. Alors, des maires.
On va accueillir aussi François-Xavier Bellamy qui est avec nous. Bonsoir, vice-président des Républicains, député européen. Est-ce que Gérald Darmanin aurait dû présenter sa démission?
Moi, je partage tout ce qui vient d'être dit. Je pense que le moment n'est pas à la politique politicienne, mais le fait d'affronter la réalité d'une situation.
Le moment est... aussi à que chacun puisse prendre aussi ses responsabilités.
Bien sûr.
Et je pense que c'est le mot de tout le monde. C'est souvent on dit là, c'est la faute de personne finalement.
Vous avez mille fois raison. Je pense que le mot qui compte dans le moment que nous traversons, c'est celui de responsabilité. Parce qu'au fond, la réalité de cette crise que le système judiciaire traverse, on la connaît depuis longtemps. Et nous, on alerte depuis longtemps sur le fait qu'en effet, on a la justice parmi l'une des moins financées d'Europe. Il y a une question de moyens. Mais il n'y a pas seulement une question de moyens. Il y a aussi une question de responsabilité personnelle dans la hiérarchie des dossiers, dans la manière de les traiter. On a, il y a quelques semaines, découvert un rapport de l'inspection de la justice qui disait que si rien n'était fait, dans l'année qui vient, on aurait 3,5 millions de plaintes qui ne seraient pas suivies d'effet. 3,5 millions. Derrière ces chiffres, en fait, il y a des personnes, il y a des vies, il y a des victimes. Il y a des gens dangereux qui sont toujours en liberté. Et on sait très bien, on le sait aujourd'hui, que notre système judiciaire, malheureusement, c'est un système d'irresponsabilité. Je dis pas ça pour accabler tous les magistrats, il y en a qui font très bien leur métier. Mais il y en a aussi, certainement, qui, quand ils prennent des décisions, ne viennent pas en assumer les conséquences.
Vous assumez donc la proposition de Bruno Retailleau qui voudrait mettre en place une sorte de cour pénale pour les magistrats?
Mais bien sûr, c'est parfaitement normal. Prenez Auch, on parle aujourd'hui de ce ressort. À Auch, c'est pas l'endroit où il y a le plus de cas à traiter, c'est pas l'endroit où il y a le plus d'affaires qui satureraient les tribunaux. La vérité, c'est que, dans les dernières semaines d'ailleurs, la procureure d'Auch, elle a eu le temps de convoquer une quarantaine de fois des agriculteurs qui avaient manifesté contre le Mercosur. Elle a eu le temps de mettre en garde à vue des agriculteurs qui avaient fait des tweets qui ont déplu à des élus écologistes. Ça, pour le coup, on a le temps de les poursuivre. En revanche, quelqu'un qui a violé une petite fille il y a 9 mois, et qui a déjà vu ce viol faire l'objet de constatations médico-légales, cette personne-là n'est pas convoquée une seule fois. À la fin, vous savez, quand les Français font une erreur,
ils devaient être convoqués.
C'était,
là, cette
c'était le dernier acte d'enquête amené, comme cela est le cas dans beaucoup de procédures. On convoque la personne à la fin pour le placer en garde à vue.
Sauf que c'était en février, il n'a pas été convoqué.
Sur la comparaison que vous faites avec les manifestations, c'est pas les mêmes faits non plus. On parle de faits qui sont en flagrance là avec les tracteurs et
c'est plus facile en fait.
Donc un viol constaté par un médecin légiste.
Mais c'est pas les mêmes affaires, on peut pas les comparer dans le cas d'un viol ou une agression sexuelle.
Moi, je partage mille fois.
Il n'y a pas de témoin, il faut auditionner les gens, confronter les versions, etc. Je n'ai aucun avis sur ce que vous venez de dire, je dis juste que c'est pas les mêmes affaires.
Oui, enfin, il faut faire attention aussi de pas relativiser ce qui ne devrait pas l'être. Je partage mille fois ce que vous avez dit, maître. Et je vois aussi que la mère de cette petite fille, Rosa, qui a été violée, elle appelait toutes les semaines pour savoir où en était la plainte. Toutes les semaines. Au bout de quelques semaines, on lui a dit
Mais ce que les Français ne comprennent pas.
C'est ça que vivent des parents.
On est les champions de la dépense publique. On est les champions des prélèvements obligatoires et on apprend qu'on a beaucoup moins de procureurs chez nous qu'en Allemagne, que chez nos voisins.
Non, mais c'est pour
En fait, il y a quand même un problème.
Question
des priorités.
Simplement, regardez. Vous voyez, en France, 3 procureurs, 11 juges, Union européenne, la moyenne. Oui, pour 100 000 habitants. La moyenne, c'est 12 procureurs quand on a 3 en France, 21 juges quand on
J'avais la question, où va l'argent? Est-ce que le régalien est une priorité en France?
Mais non. Je vais pas vous dire le contraire. J'ai défendu ça même dans ma propre campagne à l'élection européenne. Vous voyez, c'était même pas une campagne nationale et je disais déjà que l'un des sujets majeurs du rattrapage que la France allait devoir connaître vis-à-vis de l'Europe, c'était celui de la remontée en puissance de sa justice. Parce que moi, je comprends ce que vous disiez sur le fait qu'on aurait besoin d'une nouvelle loi. Mais le fait est que dans cette affaire, ce qu'on constate déjà, c'est pas qu'on manque de loi, c'est qu'on manque d'application des lois qui existent déjà. Les Français savent que quand ils vont commettre une faute, ils auront à en répondre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les magistrats sont l'une des rares professions qui n'ait jamais besoin de répondre des conséquences des décisions qu'elle a pu prendre? Et je pense qu'aujourd'hui c'est ça la grande question. Vous savez, le ministre de la Justice a dit on pourrait avoir d'autres affaires Liana, mais c'est pas qu'on pourrait avoir d'autres affaires, c'est qu'il y a déjà eu Elias, c'est qu'il y a déjà eu Philippine. À chaque fois, des lois qui existent n'ont pas été appliquées. Et à chaque fois, ceux qui en ont payé le prix, c'est des innocents, c'est des enfants. Et cette faute-là, elle pèse sur nous tous, bien sûr. Et moi, je suis comme vous, je voudrais demander pardon. Mais elle pèse singulièrement sur ceux qui ont déjà pour mission d'appliquer la loi qui existe déjà dans notre droit.
Pour moi, je voudrais rajouter 2 choses. La première chose, c'est qu'on nous dit, alors dans ces conditions, il faut prioriser. Ça, c'est maintenant le verbe, je priorise, tu priorises.
C'est la mode.
En fonction de quels critères est-ce qu'on pourrait juste s'appliquer à dire que dans le cadre d'une affaire de pédocriminalité, c'est une urgence vitale, c'est une urgence absolue, qu'à partir du moment où il y a un dépôt de plainte, à partir du moment où il y a des éléments qui sont détaillés, circonstanciés, il doit y avoir immédiatement interpellation, garde à vue, Et que le
surtout lorsque la personne en question est déjà inscrite en otage. Donc il avait déjà eu des antécédents judiciaires.
C'est pas un casier, l'otage.
Si j'étais aujourd'hui.
C'est un fichier quand même.
Mais peu importe, c'est pas un casier. Non, mais excusez-moi, mais vous apportez la thèse et la contre-thèse et l'antithèse. C'est-à-dire que si on priorise tout, ne perdons pas de vue que ce sont les mêmes fonctionnaires qui traitent tous les mêmes dossiers.
Pardon, monsieur le policier, mais quand le 22 août 2025, la maman de Rosa dépose plainte pour viol sur sa fille.
Oui.
Monsieur Barella est déjà inscrit au traitement des antécédents judiciaires. Oui. Pourquoi le parquet de Toulouse, parce que c'est le parquet de Toulouse qui a la plainte, pourquoi le parquet de Toulouse ne regarde pas ce qu'il y a et se dit pas, alors, tiens, quand même, monsieur, il faudrait qu'on s'y intéresse assez rapidement.
Je vais vous répondre, mais je suis pas gendarme et encore moins magistrat. Non, mais je peux répondre sur des affaires de police, mais pas sur les arcanes de la gendarmerie. Et il y a une enquête interne qui, j'espère, mettra... Mais moi, ce que je veux pas, justement, c'est que cette enquête interne serve de camouflage pour le reste, pour l'institution qui est en crise. C'est toute l'institution qui est
d'accord,
en crise.
D'accord, il faut déjà voir précisément ce qui s'est passé sur place.
On est d'accord, mais l'enquête le dira. L'enquête le dira, mais il y a des mesures, je suis désolé. Et c'est pour ça que je suis solidaire avec ceux qui en souffrent, directement ou indirectement. Si on se contente de ça, on ira plus loin. Et demain, il y aura une autre petite Lola. Moi, je suis navré, mais à un moment donné, vous aviez défendu, peut-être pas vous personnellement, mais je pense à un certain de vos anciens candidats, la suppression d'un fonctionnaire sur deux. Et ce problème, cette problématique de suppression de tant de postes au niveau national, on le paye aujourd'hui. Et ça, ce sera impossible à réparer dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce qu'entre le moment où un ministre ou une gouvernance, présidence ou pas, décide une modification, de l'agenda philosophico-politique, faut des années. Faut 10 ans pour que ça prenne effet. Aujourd'hui, le déficit des enquêteurs, il est palpable partout. Or,
quand le gendarme répond à la mère de Rosa toujours, écoutez, arrêtez de nous appeler toutes les semaines.
Mais vous avez des abrutis partout.
C'est du harcèlement. C'est pas une question de moyens.
Mais vous avez des abrutis partout, y compris dans la police.
Ils ont un pouvoir.
Et je ne l'excuse pas.
Ils ont un pouvoir exceptionnel, ces abrutis.
Je suis d'accord. Mais c'est le cas. On n'a pas le droit de répondre à ça. Mais il y a des policiers aussi, je vous rassure. Et dans toutes les corporations, vous avez ce profil.
Mais c'est pour ça qu'il y a des corporations qui rendent des comptes, peut-être d'autres moins.
La vraie question, c'est celle de la responsabilité.
Vous voulez qu'on en parle? Il y a aussi les policiers et les gendarmes sont les seuls qui en répondent.
Je parle pas d'eux, je parle
pas des magistrats. On est d'accord.
Vous voulez intensifier l'affaire, pardon.
Oui, je pense que nous, on a travaillé depuis 2024 avec 150 associations sur ce projet de loi intégrale qui comprend à la fois un budget à la hauteur du problème, puisqu'en fait, nous, ce qu'on demande, c'est 2,6 milliards d'euros sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Sur le sujet, alors qu'aujourd'hui, il y a 355 millions qui sont péniblement affectés à droite à gauche dans les différents ministères. Et puis, ce qu'on demande aussi, c'est des changements substantiels. Et par exemple, ce qu'on demande, la proposition de loi qui a été déposée le 25 novembre, qui n'est toujours pas examinée, ce qu'elle demande, l'article 20, il est très simple, l'article 20, il dit que la juridiction compétente peut être celle du domicile de la victime mineure. Et par exemple, dans le cas de Rosa, eh bien, ça aurait voulu dire qu'au lieu de transférer, de perdre des mois et des mois de transfert de dossier jusque à la juridiction du domicile par courrier, par porteur, qui donc a été transféré à Auch et donc a rajouté aussi de la pesanteur et des délais.
Donc, le parquet de Toulouse aurait pu saisir cette
affaire. Le parquet de Toulouse aurait pu aller encore beaucoup plus vite. Donc quand on dit, nous, à un moment donné, il faut qu'on ouvre les yeux sur le fait que c'est pas qu'on sait pas quoi faire. C'est qu'on ne veut pas faire ce qu'on sait qu'on devrait faire. Et c'est le cas aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, il y a ce qu'il faut sur la table. On a travaillé avec les 150 associations sur les sujets violences sexuelles, de la prévention, parce qu'en fait, c'est pas le tout de punir à partir du moment où ils ont commis un viol. En fait, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait plus personne qui soit violé. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, il faut aussi travailler évidemment sur la prévention, travailler bien sûr sur une justice qui soit réparatrice pour les victimes aussi. Donc, une justice qui ne fasse pas cette victimisation secondaire que l'on dénonce. Et ensuite, parler aussi de réparation. Il y a aucun moyen aujourd'hui sur les psys, par exemple, comment faire pour aider les enfants aussi à aller mieux. Je ne sais pas combien il y a de pédopsychiatres dans le Gers, mais je ne pense pas beaucoup. Donc moi, je pense aussi justement aux autres victimes de M. Barella.
On va retourner dans le Gers, retrouver Kevin Eliès en direct pour BFM TV, puisqu'il est à proximité du collège Hubert Reeves, où était scolarisée la petite Liana. On imagine le retour compliqué, le retour en classe aujourd'hui, Kevin.
Effectivement, une émotion très forte. Et s'il fallait une image peut-être pour symboliser cette émotion au sein de l'établissement, regardez sur les images d'Agathe Pichon, vous les voyez, ce sont ces innombrables roses blanches posées aux abords de l'établissement. et une grande majorité ont été déposés hier lors de la marche blanche, mais depuis ce matin, on a vu certains élèves, certains membres de l'établissement sortir et apposer des dessins, des mots en hommage à Liana. Nous avons pu tout à l'heure nous entretenir avec un élève ici en classe de 6e, il a 11 ans. Il nous explique que les cours ont été maintenus aujourd'hui, ils ont repris aujourd'hui dans l'établissement, mais à un rythme plus léger que d'habitude pour permettre un certain dialogue. Il nous le dit, l'émotion était forte au sein de l'établissement. Il a vu certains personnels fortement émus. Je vous propose de l'écouter.
Aujourd'hui, c'était extrêmement ralenti et on a eu déjà la principale nous a lu un extrait du Petit Prince et du coup, c'était vraiment très ralenti. Même on avait une évaluation, on l'a reportée. C'est dur de vivre ça ici à Florence, dans une petite ville. Enfin voilà, c'est très bizarre.
Voilà, vous l'aurez compris, une émotion qui est forte chez les élèves, mais aussi au sein du personnel de l'établissement. On a pu aussi voir des personnes, des habitants, des gens qui habitent parfois à plus d'une heure d'ici, qui sont venus se recueillir devant ces roses blanches, devant cet établissement. À noter qu'une cellule psychologique a été ouverte au sein du collège à destination notamment des élèves.
Je voudrais revenir, merci Kevin Eliès, en direct donc de Florence avec Agathe Pichon. Je voudrais revenir quand même sur ce qu'a dit le garde des Sceaux tout à l'heure à La Réunion. Il a dit, il ne nous a manqué ni de moyens ni de lois, il nous a manqué de prioriser les viols sur mineurs. Voilà ce qu'a dit le garde des Sceaux. Et derrière, Marie-Suzanne Lequeo, qui est la procureure générale de Paris, a dit, le garde des Sceaux nous a dit de regarder les choses en face, c'est ce qu'on doit aux Français. Et elle ajoute, pour nous aussi, c'est un échec collectif. Donc il y a quand même une nouvelle prise de conscience à avoir de la part des procs, alors des procureurs aussi.
Oui,
alors.
Et peut-être également qu'on pourrait enfin introduire la notion de responsabilité individuelle. Parce que vous voyez, moi je suis avocat, je loupe un délai, je ne fais pas appel, vous allez engager ma responsabilité civile professionnelle et je vais être condamné. Donc si vous voulez, il y a une forme de vigilance implicite ou explicite qui est en permanence. Là, finalement, on dit voilà, et puis on va faire une enquête, on va diligenter une enquête, et puis à l'issue des résultats, on prendra éventuellement des sanctions. Non, il y a une faute, il y a un préjudice, il y a un lien de causalité. Je suis désolée, à un tel niveau de responsabilité, un magistrat a le droit de vous emprisonner, a le droit de vous mettre en prison, a le droit de vous libérer d'un claquement de doigts, et de la même manière, il peut vous emprisonner en sollicitant le JLD. Pourquoi
est-ce le juge des libertés de la détention.
Le juge des libertés de la détention. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un magistrat qui aurait commis des négligences, mais volontairement ou involontairement, mais on s'en fiche, en fait, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas, lui aussi,
ça n'arrive jamais.
Ça n'existe pas.
Si, il est sanctionné par son corps.
Oui, par son corps, donc il faut saisir.
Non, il n'y a quasiment jamais de sanction.
Le Conseil supérieur de la magistrature. Et ensuite, ce sera le garde des Sceaux qui va prendre des sanctions. Vous connaissez l'échelle des sanctions, ce sera l'avertissement, ce sera un blâme, ce sera une mutation forcée, en tout état de cause. Enfin, il n'y a pas cette notion de se dire.
Il faut juger les juges, c'est ce que vous dites.
Je dois également. Je suis juge, je juge, mais on peut également me juger.
Tout le monde. D'accord avec ça?
Tout le monde respecte l'indépendance de la justice, mais l'indépendance, ça ne peut pas être l'irresponsabilité des juges. Et je voudrais revenir sur un exemple tout simple. La mort du petit Elias, c'était il y a moins d'un an maintenant. Après la mort du petit Elias, il y a eu un rapport de l'inspection de la justice qui était accablant, qui montrait que ça n'avait été possible que par une série de dysfonctionnements épouvantable et que ces dysfonctionnements ont conduit au fait que, là encore, le prix soit payé par un enfant, par un innocent.
Il faut rappeler ce que c'était, Elias. C'était cet adolescent qui a refusé dans un premier temps de donner son portable. C'est ça, Mathias Tesson. Oui. Il a été tué d'un coup de machette et les deux personnes impliquées ne devaient pas se voir, ne devaient pas se rencontrer et avaient été placées sous contrôle judiciaire. Or, elles passaient leur temps ensemble parce qu'ils vivaient dans la même barre d'immeubles, je crois, si je me souviens bien.
Vous avez tout dit. C'est ça. L'histoire est celle que vous racontez.
Sans aucune conséquence. Et c'est la justice elle-même qui a reconnu que sa mort était la conséquence de ce dysfonctionnement majeur de la justice. Quelles ont été les suites? Qui a répondu de ce problème, de cette défaillance, de cet échec? Ça suffit pas de dire qu'il y a des problèmes systémiques. À un moment, le problème systémique, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité personnelle. Et vous l'avez très bien dit, tous les Français savent, un chef d'entreprise, un artisan, un commerçant, un policier, un gendarme, un professeur, que si vous échouez gravement dans l'exercice de votre responsabilité, vous aurez à rendre des comptes. Un médecin, bien sûr. Pourquoi est-ce que les juges seraient ceux qui établissent les responsabilités des Français, les seuls à ne jamais avoir à rendre raison de leur propre responsabilité?
J'ai juste vous poser une question un peu triviale. Est-ce que selon vous, il faut choisir entre les violences faites aux enfants, les violences faites aux aux femmes, le narcotrafic. On a le sentiment qu'il y a énormément de priorités à avoir de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prioriser quelque chose par rapport à l'autre, ou il faut mettre des moyens globaux sur l'ensemble des services d'enquête et services de justice?
Il y a un problème fondamental, tout simplement aussi de bon sens, et peut-être malheureusement un problème politique aussi. J'ai pas peur de l'assumer, mais encore une fois, c'est peut-être une divergence entre nous quand vous considérez que c'est normal que 40 agriculteurs soient convoqués.
J'ai pas dit que c'était normal. Selon moi, pas comparer les deux affaires.
Oui, mais à la fin, pour moi, quand vous avez un violeur qui court dans la nature et que de l'autre côté vous avez des agriculteurs qui sont pourchassés pour un tweet, je suis désolé, mais l'urgence, il y a une question de simple bon sens. Elle commande d'éviter que nuise de nouveau un pédophile. Qui a manifestement encore la capacité de nuire.
Un ministre ne peut plus dire précisément procureur, il faut aller là-dessus. Il peut envoyer des directives, mais depuis la loi Taubira, il y a une séparation entre les procureurs et le ministre. D'ailleurs, ça pose peut-être une question sur si un ministre veut justement s'engager sur une priorité particulière, il peut pas le faire, si j'ai bien compris.
Mais tout le monde parle le plus d'indépendance du parquet. Moi, je crois qu'on aurait besoin de plus, au contraire, de plus de...
Il faut supprimer cette loi Taubira?
Il faudrait que le parquet, encore une fois, rende des comptes. Et vous savez, un système politique, un système institutionnel, c'est un système de responsabilité.
Oui, Monsieur Bellamy, deux dossiers sur bureau du juge. Un homme suspecté de pédophilie, et avec un certificat médical une enfant, et un homme suspecté de terrorisme. Vous prenez quel dossier?
Non, mais là, le sujet, c'est pas ça, Aoch, hein. Le sujet, c'est d'un côté un homme suspecté de pédophilie.
Vous faites quoi? Parce que les magistrats vous disent on doit prioriser. On a que des dossiers prioritaires. On fait quoi?
Revenons.
Les gendarmes ont témoigné en disant, moi, j'ai des morts, j'ai des meurtres, j'ai des accidents, j'ai des morts d'enfants, des familles qui m'appellent.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. Revenons sur ce qui s'est passé.
Mais
ce qui s'est passé.
Qu'est-ce que vous faites, monsieur Bellamy? Les Français nous regardent. Deux dossiers. Terrorisme ou pédophilie?
La justice, elle a le moyen de poursuivre en même temps des terroristes et des pédophiles. La vérité, c'est qu'à Auch, on a convoqué des agriculteurs qui avaient déversé du purin dans la préfecture, et on n'a pas convoqué un pédophile récidiviste. C'est ça, la vérité. Alors maintenant, on ne va pas nous raconter l'histoire. La vérité, c'est que effectivement, vous avez aujourd'hui des magistrats, manifestement, qui obéissent aussi à une ligne politique. Vous connaissez le syndicat de la magistrature, c'est un tiers des magistrats français qui nous expliquent qu'aujourd'hui, ils défilent à la fête de l'UMA et ils expliquent qu'emprisonner, c'est mal. Et en fait, on sent bien qu'il y a une réticence politique à aller dans cette direction. C'est ça, la vérité. Alors, le choix, il n'est pas entre pourchasser des terroristes ou des pédophiles.
Ce serait une très mauvaise idée, à mon avis, d'hyper-responsabiliser les magistrats pour une raison simple. C'est que vous allez les radicaliser dans leur prise de décision. Ils vont trop en faire ou pas assez en faire. Donc, c'est une fausse bonne idée. Il y a un fait social aujourd'hui que nous vivons de plein fouet depuis plus de 20 ans. L'État ne protège plus les individus, il se protège lui-même. Il faut bien qu'on se mette ça en tête. Les moyens de l'État sont uniquement... Il suffit de lire le Beauvau de la sécurité.
Ils vont mettre 200 CRS place Vendôme pour pas qu'on manifeste. Je sais pas combien de CRS ils vont mettre place Vendôme pour pas qu'on manifeste.
CRS garde mobile. Basta.
Donc là, on va être obligé. Et du coup, là, j'avais mes équipes par SMS et donc on va être obligé de déplacer la manifestation parce que le gouvernement a du pouvoir, il a le pouvoir de nous écrabouiller, il a le pouvoir de nous empêcher de manifester, en mémoire Aliana. Donc on va être obligé de nous déplacer.
Les gens allaient manifester.
On est la fondation des femmes. On est une fondation reconnue d'utilité publique. On a appelé. Il y aura des mamans, il y aura des enfants. On va pas aller à la confrontation avec des CRS. On n'est pas comme ça. On ne peut pas faire ça. Et par ailleurs, en fait, je pense que en mémoire pour Aliana et pour ses parents, je pense que ça n'est pas ce qu'ils souhaiteraient. Maintenant, moi, du coup, ma colère contre le ministre de la Justice vient d'augmenter, mais à un niveau. Il ne veut pas qu'on manifeste sous ses fenêtres. Mais il faut qu'il parte, en fait, s'il n'est pas capable d'affronter la colère des gens face au meurtre d'une enfant.
Il est là ce soir, sur le plateau du Forum.
Parce que l'ancien ministre de l'Intérieur, il n'a rien à dire sur le sujet.
Il sera face aux Français ce soir, en direct sur BFM TV.
Et bien alors, s'il est d'accord pour qu'on manifeste devant chez lui, il n'a qu'à le dire, monsieur Darmanin. Il peut nous faire un petit tweet, il peut nous le dire, si jamais il est d'accord pour qu'on vienne en bas chez lui. Non, mais c'est trop tard. De toute façon, ce soir, c'est trop tard. Le rassemblement, c'est à 18h30. Couper en deux le rassemblement. C'est la confusion dans tous les sens. C'était censé être un magnifique hommage pour une petite fille qui a été tuée. Et à cause du fait qu'il ne veut pas prendre ses responsabilités, que le gouvernement ne veut pas prendre ses responsabilités, que le président, le premier ministre nous envoie bouler comme ça, et ben en fait, ils sont en train de couper en deux le rassemblement. Ça ne sera pas de ma faute si place Vendôme, il y a des gens qui vont quand même place Vendôme pour pouvoir exprimer leur colère. Donc nous, on a eu une responsabilité. on va Place Lépine à 18h30, puisque c'est que ça qui daigne nous accorder et qu'on est reconnu d'utilité publique. On peut pas faire n'importe quoi. Mais il n'empêche que je pense que ça ne fait qu'augmenter la colère des gens et ça ne fait que démontrer à quel point ils en ont rien à fiche de ce sujet et de ce problème. Ils ne nous laissent même pas rendre hommage à ces petites filles.
Justement, on va voir où en est l'enquête. On va aller à Florence dans le Gers, retrouver Adélaïde Manabo pour BFM TV, puisque Jérôme Barella est toujours en détention provisoire, en attendant de voir comment peut avancer le dossier maintenant, ce dossier judiciaire.
Oui, tout à fait. L'enquête se poursuit pour tenter de comprendre les causes de la mort de Liana. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à ce qu'il s'est passé entre 15h et la fin d'après-midi quand Jérôme Barella refait surface à la fête de l'école de sa fille. Pour le moment, ce que les enquêteurs ont, c'est simplement l'endroit où a été déposé le corps de Liana, le silo. Et c'est justement ça qu'ils tentent de comprendre. Où la petite fille a-t-elle été tuée? Ils analysent notamment la voiture du suspect à la recherche d'éléments concrets. Dans les prochains jours, les enquêteurs vont à nouveau interroger le suspect, ses proches, mais aussi des personnes plus éloignées. Les premiers résultats d'analyse n'ayant pas permis de donner les causes de la mort de Liana, des analyses complémentaires ont été ordonnées, des résultats qui ne devraient pas être connus avant la semaine prochaine.
Adélaïde Malavou en direct de Florence pour BFM TV avec Thierry Bouillet et Nassim Gomery.